Vous écoutez France Culture.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins sont tous les jours en route vers la joie, en compagnie de Marianne Chassor, Jean Danielou, Mathilde Wagman, Géraldine Mosna-Savoie et Valentin Schmitt. À la lecture des textes cette semaine, un homme libre, Georges Kless. À la réalisation bienheureuse, Olivier Guérin. Avec aujourd'hui, à la prise de son éthique, Michel Mestre. Bienvenue sur les chemins du vendredi, où chaque semaine nous donnons la parole à ceux qui réconcilient philosophie et actualité sous toutes ses formes. Table ronde autour des nouvelles parutions, réflexions philosophiques à partir d'un film ou d'un roman contemporain, regard serré sur l'actualité, et cette semaine rencontre avec un philosophe au parcours singulier, un itinéraire philosophique magistral fait de puissance d'être, d'actes de la joie, de nacre et de rocher. Bonjour Robert Misrahi.
Bonjour. Je voudrais être un philosophe, c'est-à-dire un individu qui désire fonder et construire sa vie par lui-même et qui s'efforce de diffuser et de partager ce désir d'autonomie. En quoi allait consister cette philosophie qui est une éthique? C'est ce que nous allons découvrir peu à peu avec le déploiement de ma vie qui, en fait, est le déploiement de ma pensée. C'est que je suis comme habité et porté par une grande passion qui est une grande certitude. Cette passion active, dirais-je, est à la fois l'expression de tous mes choix et de mon être passé, et l'expression de l'enthousiasme et de la force que j'acquiers par le développement de ma propre réflexion.
Vous venez de lire un extrait de votre autobiographie, Robert Misrahi, un extrait de « La nacre et le rocher », une autobiographie au nom magnifique, publiée aux éditions Encre Marine en 2012. Dans cet extrait, vous dites qu'être philosophe, c'est se construire par soi-même.
Être philosophe, c'est d'abord se détacher de la quotidienneté, c'est-à-dire de tout ce qui se passe quotidiennement, un peu par hasard, un peu « va comme je te pousse ». C'est prendre une légère distance et puis décider de n'agir désormais qu'à la lumière d'une réflexion bien fondée. Et cette réflexion bien fondée nous convainc aisément, très vite, que nous avons à construire notre propre autonomie, c'est-à-dire à poser nous-mêmes, à choisir nous-mêmes et à poser les principes qui vont orienter notre vie. C'est-à-dire que nous allons tenter de réaliser ce que, à la lumière de la réflexion, nous aimerions bien être, nous aimerions bien vivre. Et on pourra constater que, à le vouloir, sérieusement, nous le réalisons. On peut appeler autonomie, par conséquent, le fait de se donner à soi-même sa propre loi. Alors, bien entendu, c'est une démarche à laquelle tout le monde fait allusion, mais que l'on prend peu au sérieux. Il faut la prendre au sérieux, cette démarche d'autonomie. Elle marque d'abord, c'est sûr, une certaine solitude, puisqu'elle marque une sorte de différence entre ce qu'on dit d'habitude et ce que l'on va soi-même montrer, démontrer, éprouver, construire. Il y a donc une certaine solitude, une certaine distance, mais une distance et une solitude qui ne sont pas le moins du monde, le fait de sombrer dans un gouffre, sombrer dans un pessimisme, la solitude n'est qu'un moment passager, un moment de réflexion et de construction. Mais reconnaissons, il faut avoir le courage de cette solitude pour commencer à construire une vie qui ne sera pas une vie solitaire.
Le courage serait donc l'élément nécessaire pour devenir philosophe. Il y a un autre élément sur lequel vous insistez beaucoup dans votre philosophie. c'est celui de désir. Puisque vous avez parlé de volonté, il faut vouloir et se donner les moyens de devenir ce que nous voulons être. Mais vouloir ne suffit pas. Il ne suffit pas de vouloir pour devenir. Quel rôle joue le désir ici dans cette pensée ?
Absolument, vous avez raison. La volonté n'est qu'un mot. C'est une faculté qui a été inventée par les philosophes du XVIIe et XVIIIe siècle. La vérité, c'est que le moteur de notre action est le désir. Mais j'entends par désir quelque chose qui est un peu différent de tout ce qu'on entend aujourd'hui. Aujourd'hui, on entend par désir une sorte de force obscure et aveugle, d'origine physiologique, et qui nous commanderait. J'estime au contraire que le désir est un élan habité par notre présence, c'est-à-dire d'abord notre pensée et ensuite notre réflexion. Je prendrai un exemple simple. Je suis en train de faire mes courses dans une rue commerçante. Je n'ai pas l'intention de réfléchir à rien, ni à ma vie, ni à mon avenir. Je suis en train de faire mes courses. Donc, je suis, semble-t-il, mu par mon désir. Mais ce désir, constatons qu'il est intelligent. Je ne m'arrête pas à tous les magasins. Lorsque je m'arrête à un magasin, c'est que je l'ai choisi. Mon désir choisi. Et lorsque j'entre dans le magasin, imaginons que c'est une librairie, dans ce magasin, encore une fois, je choisis. Si je trouve ce que je désire, je suis satisfait, je puis partir et poursuivre ma voie. Si je ne trouve pas, je ne tombe pas dans le désespoir. Je me dis que je repasserai quelques jours plus tard ou bien que je téléphonerai au libraire. Autrement dit, le désir choisit et il est intelligent. Tout cela va contre ce qu'on nous dit aujourd'hui du désir qui serait une force aveugle. Une force aveugle et une force destructrice, il n'en est rien. Ce qui est vrai, reconnaissons-le, c'est que le désir d'abord commence par être une spontanéité qui n'est pas forcément adéquate, qui n'est pas forcément intelligente. Je puis très bien, en choisissant le livre que je vais acquérir, je puis très bien faire un mauvais choix. Je puis très bien me tromper. Je puis très bien faire une erreur dans mes choix. Si je suis en voiture, si je conduis, j'arrive à un carrefour, je prends une voie, il se peut très très bien, le plus souvent c'est ce qui arrive, que je prenne une mauvaise voie. Le désir est intelligent, il choisit, mais il n'est pas toujours adéquat. Il peut très bien être erroné, il peut très bien être maladroit, il peut très bien être contradictoire. Par exemple, je désire être heureux, je veux être heureux tout de suite maintenant, complètement. Qu'est-ce que je fais ? Je prends de la drogue. Et résultat, je me détruis. C'est-à-dire que mon libre désir était un désir non réfléchi, maladroit, erroné, contradictoire, contre-productif, comme on dit. Autrement dit, nous sommes mus par le désir, mais ce désir est une présence. C'est la présence à la fois d'une énergie et d'une conscience. Allons un peu plus loin. Essayons de décrire un autre aspect du désir. On nous dit aussi que le désir est manque et que, par conséquent, c'est-à-dire Lacan, Sartre, Hegel, on nous dit que le désir est un manque et que par conséquent, il ne saurait être comblé, d'un manque par essence qui ne saurait être comblé. Voilà pourquoi on devrait pouvoir affirmer que la conscience est par essence conscience malheureuse. Il n'en est rien. Je vais employer un mot un peu fort, vous en conviendrez. C'est une forfaiture de dire que le désir est par essence un manque qui ne saurait être comblé. Toute l'expérience humaine prouve le contraire. Il y a des désirs qui sont comblés. Le cultivateur sème son blé, puis il le récolte. Et il a la satisfaction de récolter sa moisson. Nous avons soif, nous buvons, nous sommes rassasiés. Le désir est un manque, mais provisoire. Le manque dans le désir est un moteur, la source d'un dynamisme. Mais alors que vise le désir ? Le désir vise justement, et par définition, la satisfaction.
Robert Mitrailly, vous êtes un grand lecteur de Spinoza. Vous avez traduit l'éthique de Spinoza, qu'on trouve au livre de poche. Vous y avez consacré plus d'un livre, j'en cite un, Spinoza, une philosophie de la joie, aux éditions Entrelacs. Votre parcours intellectuel, philosophique, s'est beaucoup nourri de la pensée de Spinoza et la façon que vous avez de présenter le désir comme étant cet élan habité, un désir intelligent et choisi, est dans le meilleur des cas le point d'aboutissement du trajet spinoziste, trajet retracé au sein de l'éthique, qui est un texte parfois aride, qui prend une forme mathématique, géométrique, mais qui délivre la clé, à qui saurait bien le lire, d'un désir bien compris. Désir bien compris qui est la condition du bonheur ou de la joie. On va y venir. Est-ce que votre pensée du désir, puisque vous avez aussi votre pensée, est identique à celle de Spinoza? Et sinon, sur quel point êtes-vous en désaccord?
Vous posez la question centrale, parce qu'il y a une différence considérable entre l'ensemble de la philosophie de Spinoza et l'ensemble de ce que j'essaie de proposer. Cette différence, c'est le déterminisme. Spinoza pose un déterminisme radical, total et insurmontable. Déterminisme de la nature, ce que nous appelons la nature physique, le monde extérieur, mais déterminisme également dans les pensées, et donc déterminisme du désir et des affects. Je ne pense pas que le désir soit déterminé comme le décrit Spinoza, et comme le décrivent aussi nos contemporains. Nos contemporains sont fascinés par l'idée de déterminisme, sans se rendre compte qu'ils se contredisent. De même, chez Spinoza, il y a une contradiction centrale qui est la suivante. Comment peut-on contester notre vie ordinaire qui est une vie passive et non autonome? Comment peut-on rejeter cette forme de vie si nous sommes déterminés? Si nous sommes déterminés, nous allons rester dans le déterminisme. Pour que nous puissions nous arracher au déterminisme, il faut que nous soyons déjà capables de nous arracher, c'est-à-dire que nous sommes déjà libres. N'ayons pas peur du mot liberté. Liberté ne veut pas dire tout de suite, comme je l'ai montré tout à l'heure par un exemple, liberté ne veut pas dire tout de suite action intelligente et heureuse. Liberté veut dire action autonome. Je puis très bien décider des actions dont je suis la seule source et qui sont erronées. Je vais les éclairer et je vais construire des actions ordonnées. Ce qui m'intéresse chez Spinoza, ce n'est donc pas la théorie du déterminisme. Le déterminisme rendant impossible la démarche spinoziste elle-même. Spinoza ne pourrait pas s'arracher au déterminisme de la vie quotidienne et des passions passives s'il était totalement déjà déterminé pour toujours. Il en va de même pour nos contemporains. Nos contemporains disent, un petit peu à la manière des sociologues Durkheim, Durkheim, des sociologues du début du siècle, nos contemporains disent « Oui, mais nous sommes libres, bien sûr, oui, mais un petit peu, nous sommes un petit peu libres, nous sommes un petit peu déterminés. » Et quand est-ce qu'ils savent qu'ils sont libres et qu'ils sont déterminés? Ils se disent sûrement libres lorsqu'ils agissent et ils disent aux autres sans doute qu'ils sont déterminés. Non, l'individu, c'est Sartre qui avait raison, est d'abord totalement libre. Mais Sartre a oublié de dire que l'individu totalement libre peut prendre des décisions erronées.
La grande idée de l'existentialiste, c'est précisément de lutter contre le sentiment d'impuissance. Nous pensons que l'homme n'est jamais impuissant que lorsqu'il est persuadé qu'il l'est. Ah, alors là, c'est vraiment l'impuissance parce qu'il ne fait plus rien, parce qu'il attend du dehors et que les choses arrivent en dehors de lui. Mais même dans les situations les plus écrasantes, l'existentialiste pense que l'homme est libre. Mais surtout, n'est-ce pas, nous pensons que la responsabilité de l'homme est terrifiante parce que l'homme devient exactement ce qu'il décide d'être. Si par exemple, comme on est en train de le faire à présent, nous décidons que la liberté n'existe pas, que la pensée est inefficace, que nous sommes impuissants, que la seule loi, c'est par moment la violence et la plupart du temps la soumission résignée, alors nous ferons arriver ce que nous avons décidé. Et pendant des siècles peut-être, L'homme ne sera plus que cela, rien que cela, et il ne méritera pas d'être davantage. Si au contraire, fût-ce une poignée d'hommes, continue à affirmer que notre destin est entre nos mains, même si demain, il doit se produire une catastrophe, pourvu que ces hommes ne lâchent pas prise, l'idée reste. Elle pourrait être reprise par d'autres.
Robert Misrahi, si vous prenez vos distances avec le déterminisme de Spinoza, accordez-vous toutes vos faveurs à la liberté sartrienne, c'est-à-dire à l'existentialisme qui consiste à dire, Sartre vient de le dire lui-même, que l'homme devient ce qu'il décide.
Je tiens à manifester, à exprimer toujours ma dette à l'égard de Sartre. Je pense que Sartre est le premier philosophe qui ait expliqué clairement, bien qu'on ne le lise pas en détail, qui ait expliqué clairement ce qu'est la contingence de l'action quotidienne. Dans l'action quotidienne, nous pouvons agir vers une direction A ou vers une direction B, toujours et sans exception. Nous sommes source d'initiative. Même le cerveau est source d'initiative. Nous sommes source d'initiative. Mais Sartre s'arrête là. Nous sommes source totale d'initiative, donc source de responsabilité. Oui, nous sommes à la source de ce que nous allons faire, mais ce que nous allons faire va-t-il nous combler? Pas forcément. Ce que nous allons faire, si nous le faisons dans la hâte, si nous le faisons dans l'imprudence et dans l'irréflexion, ou pour le dire autrement, dans la spontanéité, nous allons le plus souvent accomplir une action erronée qui risque de se retourner contre nous ou d'être inutile. C'est pourquoi je tente avec mes moyens, avec les moyens du bord, c'est pourquoi je tente de compléter la philosophie de Sartre par l'intervention de la réflexion. C'est-à-dire que la véritable liberté sera le redoublement de la première liberté par une seconde liberté qui, elle, sera une liberté réfléchie. Or, l'être humain qui est une conscience, tout être humain est une conscience fût-elle erronée, toute conscience peut se redoubler et peut devenir peu à peu réflexion. C'est la définition même de l'être humain d'être d'abord une simple conscience et ensuite il a la possibilité de devenir une conscience réfléchie. C'est pourquoi je tiens à ce que je vais appeler comme ça par commodité, tout simplement, une doctrine des deux libertés. Nous sommes libres spontanément, toujours, mais maladroitement. Et nous allons être libres d'une façon heureuse cette fois, et non pas dépendante. Nous allons être libres d'une façon heureuse, dans tous les sens du mot heureux, c'est-à-dire adéquate, intelligent, réussi, accompli, si nous réfléchissons, si nous mettons en œuvre ce que j'appelle une liberté de second niveau. Mais pour que l'être humain parvienne à cette liberté de second niveau, que va donner d'abord la culture, la philosophie, etc., pour que l'être humain puisse parvenir à cette liberté de second niveau, il faut avoir le courage d'affirmer qu'il était déjà libre au premier niveau. Et c'est ce que nos contemporains n'osent pas affirmer, ne souhaitent pas affirmer.
Vous pensez à qui quand vous parlez des contemporains ?
À Onfray. Onfray qui se gargarise du déterminisme, des situations, etc.
Mais il y a peut-être d'autres philosophes que Michel Onfray qui reconnaissent ce que vous dites.
En même temps, j'ai de très nombreux échos, vous avez tout à fait raison, j'ai de très nombreux échos de collègues philosophes, des amis, des enseignants, des écrivains, qui sont bien d'accord avec cet appel à la liberté. On ne peut pas ne pas être d'accord avec cet appel à la liberté, puisque tous les déterministes signent leurs œuvres. Et tous les déterministes expliquent leur doctrine comme étant la doctrine véritable. Mais pourquoi est-elle véritable si elle est déterminée ? Tous les déterministes s'attribuent un mérite, le mérite de l'affirmation d'une doctrine vraie qui soit le déterminisme. Mais s'il y a mérite, c'est qu'ils ont inventé. Il faut admettre, en même temps que nous admettons la liberté de l'humanité, il faut admettre, c'est la même chose, son pouvoir d'invention. S'il n'y avait pas dans l'humanité un pouvoir d'initiative et d'invention, il n'y aurait pas d'histoire. L'histoire, n'est pas le moins du monde, comme le croient nos déterministes. L'histoire n'est pas le moins du monde. Le résultat des causes passées sur le présent, l'histoire est le fruit de l'action de notre pensée de l'avenir sur le présent.
Seule, en fait, une superstition farouche et triste peut interdire qu'on se réjouisse. Car en quoi vaut-il mieux apaiser la faim et la soif que chasser la mélancolie ? Tel est mon principe et telle est ma conviction. Aucune divinité, nul autre qu'un envieux, ne se réjouit de mon impuissance et de ma peine. Et nul autre ne tient pour vertu nos larmes, nos sanglots, notre peur et toutes ces manifestations qui sont le signe d'une impuissance de l'âme. Bien au contraire, plus grande est la joie dont nous sommes affectés, plus grande est la perfection à laquelle nous passons, c'est-à-dire plus il est nécessaire que nous participions de la nature divine. Il appartient à l'homme sage d'user des choses, d'y prendre plaisir autant qu'il est possible, non certes jusqu'à la nausée, ce qui n'est plus prendre plaisir. Il appartient à l'homme sage, dis-je, d'utiliser pour la réparation de ses forces et pour sa récréation des aliments et des boissons agréables en quantité mesurée, mais aussi les parfums, l'agrément des plantes vives, la parure, la musique, le sport, le théâtre et tous les biens de ce genre dont chacun peut user sans aucun dommage pour l'autre.
Ce qui ressort de votre itinéraire philosophique, Robert Misrahi, mais aussi des philosophes dont vous êtes l'héritier, c'est le souci et le souhait de proposer une pensée de l'actif, de l'activité créatrice. Vous avez évoqué ces deux libertés, la première qui est peut-être qui est vécue comme une forme de déterminisme, puis la seconde, la liberté réfléchie, pleinement acquise. Le problème est de savoir comment passer de la première à la seconde. Est-ce que ce n'est pas dans cette question de l'activité, mais aussi du concret que se trouve la clé du passage de l'une à l'autre, comme semble le dire Spinoza dans son... Alors c'était... Georges Clèze vient d'interpréter la quatrième partie de l'éthique, intitulée « De la servitude humaine », le scoli de la proposition 45, soyons précis. Et dans ce scoli, Spinoza présente l'homme sage comme étant celui qui sait prendre plaisir autant qu'il est possible aux choses, profiter des parfums, des plantes, de la musique, du sport et du théâtre. Comme si la clé ici, encore une fois, de ce que vous semblez nommer la conversion, résidait en partie dans la prise en compte des affects comme celui du plaisir.
Oui, bien sûr. Mais il faut comprendre que le plaisir est la manifestation de la réussite du désir. C'est-à-dire que le plaisir implique autant la pensée que le désir lui-même implique la pensée. Le plaisir n'est pas un événement physique, matériel, aveugle, obscur, un tsunami, un tonnerre. Le plaisir est une activité de l'ensemble de l'être humain, y compris de son consentement. S'il n'y a pas consentement, c'est-à-dire activité de l'esprit, s'il n'y a pas consentement, il n'y a pas plaisir. Plaisir de la table, plaisir du sport, plaisir de la musique, il faut qu'il y ait présence et activité de celui qui prend plaisir. La vérité, c'est que le plaisir nous met sur la voie de ce qui est désirable. Le plaisir nous met sur la voie de cela qui est désirable parce que cela est la complétude. Nous avons dit... que le désir est un manque, mais un manque provisoire. Ce manque provisoire est destiné à devenir comblé, à devenir plénitude. Plénitude modeste, s'il s'agit de plaisir modeste, plénitude intense, s'il s'agit de musique, s'il s'agit d'amour, s'il s'agit de réussite de sa vie. La plénitude peut être intense et c'est cela qui est visé. Voilà pourquoi Spinoza m'a intéressé. Parce qu'il sait que ce qui est visé, c'est la joie, mais la joie réfléchie. La joie, comme vous disiez tout à l'heure, active. Une joie qui est le fruit de sa propre activité, de sa propre créativité, de son propre dynamisme créateur.
Comment définissez-vous la joie ici, Robert Misrahi ?
La joie est précisément le sentiment d'une totalité à laquelle nous sommes parvenus, c'est-à-dire d'un accord avec soi-même et d'un accord avec le monde, cet accord étant à la fois une pensée et une intuition. Une intuition, c'est-à-dire une jouissance immédiate, mais au niveau de la pensée. Lorsque nous écoutons une musique, lorsque nous assistons à un opéra, nous éprouvons une joie qui est une joie active, parce que nous sommes présents, parce que nous sommes comblés, parce que nous sommes dans un temps qui est en même temps hors du temps. Et c'est cela la grande joie de l'œuvre d'art, la grande joie de la contemplation de la beauté, la grande joie de la contemplation des splendeurs du monde, si j'ose dire.
Mais cette joie est encore une fois le résultat d'un travail, d'un itinéraire peut-être philosophique, d'une réflexion. Elle n'est pas immédiate. On a ici peut-être entre le désir immédiat, puis le désir bien compris, puis enfin la joie, ce que serait une voie proprement philosophique telle que vous l'entendez.
Il y a en effet, vous avez raison d'insister, il y a en effet une médiation qu'il faut nommer et sur laquelle il faut réfléchir. La médiation va être la souffrance. Parce que la vie quotidienne, avec ses choix erronés, va nous plonger, chacun le sait bien, va nous plonger dans les difficultés. Les difficultés qui sont soit les difficultés du désir non accompli, soit les difficultés de la concurrence, les difficultés de l'accord de nos désirs avec les désirs d'autrui. Donc, la vie quotidienne est à la fois notre vie libre, spontanée, et en même temps notre vie incohérente et souffrante. Alors, cette souffrance, à certains moments, pourvu qu'on ne se satisfasse pas de la pensée facile du déterminisme qui consiste à dire « Ah ben c'est nécessaire, je n'y peux rien, c'est pas de ma faute ». Non, non, on ne se satisfait plus de cette attitude. On s'aperçoit que sa souffrance mobilise toute notre personnalité. Si nous souffrons, par exemple, du départ d'un être aimé, c'est pas parce qu'il s'est déplacé dans l'espace et qu'il a accompli un voyage que nous souffrons. C'est parce que nous l'aimons. Mais cet acte d'amour est un acte de l'esprit. C'est notre acte. C'est notre acte qui fait notre souffrance. Et nous pouvons insister sur notre souffrance. Nous le faisons librement. Mais nous pouvons aussi rencontrer des souffrances tellement graves qu'elles nous mettent en danger de mort. J'appelle cela la crise. Une crise est le moment où la souffrance atteint un extrême qui, s'il se poursuivait, conduirait à la mort, soit à la mort symbolique, la dépression, l'immobilité, le dégoût de vivre, la nausée, comme disait Sartre. Soit, au contraire, peut nous conduire, cette souffrance extrême peut nous conduire à ce que je vais appeler le coup d'arrêt, qui consiste à dire, où je continue et je meurs, je n'ai pas envie de mourir, donc j'arrête. J'arrête quoi ? J'arrête de souffrir de cette façon. C'est-à-dire, j'arrête d'accepter le monde tel qu'il est actuellement, tel que je l'ai fait et qui me fait souffrir. Je suis la cause de ce fait que le monde me fait souffrir. J'arrête. C'est-à-dire que, à ce moment, au moment de la crise, on décide de ce que l'on peut appeler une rupture. Rupture qui, pour être féconde, doit être plus qu'une rupture. Il ne s'agit pas de seulement casser avec le passé et s'ouvrir à l'avenir. Il s'agit de renverser notre point de vue ancien, qui était le point de vue passé, et de nous ouvrir à un nouveau point de vue. C'est-à-dire qu'ici, nous sommes face à une conversion. Conversion philosophique indispensable.
Mais une conversion qui en appelle à une responsabilité du sujet immense, puisque vous avez dit qu'il s'agit de se considérer comme étant la cause du malheur, de ne pas s'en prendre au monde et aux événements qui nous arrivent, mais de se situer à l'origine, peut-être non pas de ce malheur, mais de la tristesse qui s'ensuit. La conversion, le terme effectivement n'est peut-être même pas assez fort, puisqu'il s'agit d'une métamorphose totale du rapport à soi et au monde. On est presque quasiment ici dans une forme de, comment dire, de rupture qui est d'ordre psychologique. C'est tout son esprit qu'il faut changer ici. C'est plus une histoire de concept.
Naturellement. C'est un changement radical où l'individu va tenter de devenir, consciemment cette fois, cause de soi. Et c'est ça la responsabilité absolue. Nous allons comprendre que nous sommes source et de nos souffrances et de nos joies, et que nous sommes source de notre vie. Et nous allons surtout décider maintenant d'une autre manière d'aborder les choses, d'aborder la vie et de comprendre ce qui arrive, ce qui nous arrive. Parce que la conversion n'est pas seulement la décision brusque de nous tenir pour responsables. Elle est aussi une activité qualifiée que nous pouvons décrire. Vous savez que je ne me satisfais jamais de la simple évocation d'un mot pour résoudre un problème. Si je dis bonheur, je veux définir. Si je dis liberté, je veux définir. Si je dis conversion, je veux définir. Alors, si vous le voulez, je peux détailler cette conversion. Pour simplifier, je dirais qu'elle comporte trois moments. Trois moments qui sont à la fois, si on veut, successifs et contemporains. Le premier moment de la conversion, c'est la décision de comprendre que, en effet, une situation extérieure est notre fait, que les déterminismes extérieurs sont notre fait. Par exemple, je vais prendre un exemple extrême qui va susciter révolte et protestation.
Je vous ferai suivre le courrier.
Voilà. Les cours de la bourse. Les cours de la bourse, les lois des finances, c'est tout de même pas moi qui les construis. J'affirme que si. Si, c'est moi qui l'ai construit. Moi, c'est-à-dire nous tous. Comment ça ? Ben oui, les cours de la bourse dépendent du nombre d'actions qui sont achetées ou vendues. Qui achète ou vend des actions ? Des individus libres. Ne disons pas que les investisseurs sont des robots. Les investisseurs sont des hommes libres. Méchants, égoïstes, tout ce que vous voulez. Mais libre. Et puis, les actions couvrent des biens matériels que j'achète ou que je n'achète pas, moi qui, par ailleurs, a décidé de ne pas acheter d'actions. Je n'achète pas d'actions, mais j'achète des voitures. Alors, je pourrais ne pas acheter de voiture. Nous tous, nous pourrions, ben, d'ailleurs, regardons l'idée si simple, sur laquelle personne ne veut réfléchir, l'idée si simple de grève. Que veut dire grève ? Grève veut dire décision libre d'un arrêt libre d'activité. Tout le monde sait ce que c'est qu'une grève. Personne ne dit que les grévistes sont déterminés. Les grévistes sont responsables. Alors on dira bien sûr...
On trouverait des discours qui avanceraient que les grévistes sont déterminés du côté de la sociologie et de la politique.
Qui affirment naturellement le déterminisme. N'empêche que si on constate, par exemple, la conduite des syndicats allemands ou la conduite des syndicats français, on voit bien que les syndicats sont libres de choisir leur mode d'activité. En réalité, tout le monde est libre et personne ne veut le reconnaître.
C'était
le premier aspect de la conversion. Le premier aspect de la conversion, c'est donc de revenir à sa propre puissance créatrice. Nous sommes une liberté. Nous sommes une puissance créatrice, reconnaissons-le, et décidons que la suite va en dépendre. La suite, c'est par exemple, le deuxième aspect de la conversion. Le deuxième aspect de la conversion va concerner mon rapport à autrui. D'habitude, le rapport à autrui est un rapport d'utilisation. Trop souvent, revenons par exemple à l'employeur, trop souvent, on considère autrui comme utilisable, comme utile, très utile, peu utile, bien utilisable, mal utilisable, jetable. Oui, mais c'est une manière de penser. Ça n'est pas une manière de penser qui correspond à une réalité inchangeable. On peut changer cette réalité, on peut changer la manière dont on considère autrui. Au lieu de considérer autrui comme quelqu'un d'utilisable, on peut le considérer comme, eh bien, comme nous, comme un centre. On peut le considérer comme une liberté, une personnalité valable. Si je considère autrui comme une liberté valable, je vais tout changer.
Pardonnez-moi, Robert Mitraille, de vous interrompre, mais sur ce deuxième point, Est-ce que vous ne postulez pas à une liberté créatrice absolue, indépendante du monde dans lequel nous vivons ? Bien sûr que nous pouvons changer notre conception des personnes qui nous entourent, du système économique, du monde ou que sais-je encore. Mais on ne peut pas faire abstraction totalement de ces déterminismes qui en sont, qu'ils soient d'ordre sociaux, politiques, économiques, et qui font qu'il ne suffit pas d'un simple changement de regard ou de perception pour changer le monde.
Mais, pardonnez-moi, vous venez de proposer un raisonnement qui s'appuie sur l'affirmation du déterminisme. C'est-à-dire que, pardonnez-moi, vous faites une pétition de principe. Vous commencez par dire « nous sommes déterminés », comment ne pas reconnaître ? Mais attendez, c'est cela dont il est question.
Donc c'est changer le constat empirique.
Il faut déjà changer le constat empirique et nous apercevoir de notre responsabilité commune. Je ne suis pas seul au monde. Ça, c'est vrai. Je ne suis pas seul au monde. Ça n'est donc pas moi qui fais l'efficacité d'une loi économique. C'est un peu moi. Je suis la 60e, le millionième multiplié par 60 ou 80. J'ai cette part de responsabilité. Nous sommes tous les habitants d'un territoire responsables, libres, ensemble de ce qui nous arrive. Regardez ce qui arrive au moment de la guerre. Au moment de la guerre, certains disent « on arrête » et d'autres disent « on continue ». Tout le monde sait que tout le monde est libre. Et Sartre avait raison de dire que nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation allemande, car on peut toujours décider ou la résistance ou le combat ou la soumission. Mais qui décide ? Nous tous. S'il y a une efficacité de la résistance, c'est parce qu'elle fut partagée. Pas parce qu'un seul a dit « moi je suis libre », seul au monde, naturellement pas. Mais un seul a pu dire « nous sommes tous libres et efficaces ». Unissons-nous, et c'est nous qui vainquons. Et c'est effectivement la résistance, les alliés, l'Amérique, l'Angleterre, la France, qui ont vaincu.
Donc vous pensez que cette entreprise de conversion, puisqu'en fait c'est une entreprise, il y a tout un démarche, un processus à suivre ou à mettre en œuvre, peut s'appliquer à l'échelle collective ?
Naturellement, mais à quelles conditions ? Vous avez tout à fait raison de souligner la difficulté du problème. À quelles conditions est-ce qu'on peut mettre au niveau collectif, cette responsabilité, cette tâche. Il s'agit de diffuser la culture. Il s'agit de diffuser une culture de la liberté. Mais qui diffuse la culture ? Les écoles, les lycées, les universités, les médias. Qui organise les médias ? Qui organise les programmes ? Le pouvoir politique. Quel pouvoir politique aura à cœur de diffuser une culture libératrice, à l'évidence la démocratie. Autrement dit, il faut absolument passer par la démocratie pour donner efficacité à tout ce que j'affirme. Je suis tout à fait conscient du fait que, si on prend les choses en l'état, par exemple une population lointaine, un culte, si on prend les choses en l'état, on ne passera pas tout de suite à la liberté réflexive, c'est pas vrai. Bien entendu, c'est pas vrai. Mais que faut-il faire ? Diffuser la culture. Regardez combien sont incultes les chébas. Je parle des terroristes. Je parle des terroristes islamistes. Je n'ai pas besoin d'insister. Voyez comme ils sont incultes, comme ils ne savent pas. Comme ils se lancent dans les croyances les plus obscurantistes possibles. Les plus simples, les plus obscures, avec la volonté de puissance la plus fruste. Ils sont dans l'immédiat, la volonté de puissance, la force et la violence. Il est clair que ce n'est pas en leur faisant un discours éclairé, comme nous essayons de le faire maintenant, qu'on les convaincra. Il faut un long processus historique. C'est le processus de culturation par les universités, par les lycées, par les institutions, par la presse, par les médias. C'est ce long processus qui, en Europe, a produit la liberté de conscience, a produit la démocratie. Bien entendu qu'il faut un long processus et que la spontanéité quotidienne des intérêts ne se change pas immédiatement sans peine.
Alors, il nous reste 3 minutes avant la fin de l'émission. Je ne voudrais pas priver les auditeurs de la 3e étape vers la conversion, Robert Mitraille.
Alors, la 3e étape, imaginons que nous avons réalisé avec autrui une conversion réciproque. Nous avons fait notre conversion, autrui est un centre, mais autrui fait la même conversion pour que ensuite la relation se déploie dans un nouveau monde. Ici, je n'ai pas trop le temps d'insister, mais ici, je développerai volontiers, ça sera l'objet de mon prochain livre, il y a un prochain livre qui va apparaître en janvier, je développerai volontiers l'idée d'un amour tout autre. Je propose une toute autre conception de l'amour que celle qu'on nous présente dans les romans, les psychanalyses, les drames, etc. Quelque chose de tout autre, tout le monde doit avoir fait sa conversion, évidemment. Mais une fois cette conversion faite, une fois un amour tout autre mis en mouvement, que reste-t-il ? La 3e forme de la conversion. Et la 3e forme de la conversion, c'est que ensemble, les gens qui s'aiment, les amis, les coopérateurs, ensemble vont se réjouir du monde. C'est-à-dire qu'ils vont comprendre, c'est la 3e conversion, que le sens de l'existence humaine consiste très précisément à acquérir la joie, et une joie qui soit durable, souveraine et significative, une joie active. Nous allons cesser de considérer que la souffrance est le lot de l'humanité, nous allons considérer que le lot de l'humanité, c'est précisément la joie. Et pour parvenir à la joie, pour parvenir à l'expression totale de ce que j'appelle l'accomplissement, pour parvenir à l'accomplissement, il faut précisément renoncer à toutes les idées anciennes, à toutes les idées pessimistes, à toutes les idées et du déterminisme et du malheur de la conscience, et savoir que l'humanité a pour but de se construire libre et heureuse. C'est tout simple, et comme vous savez, c'est pas simple en même temps.
Mais ce sont des buts que vous déclarez être tels, la liberté et le bonheur.
Ce sont les buts. En réalité, ce sont les buts que tous poursuivent. Tout le monde veut être libre et heureux. Mais peu ont le courage de le reconnaître. Tous se cachent derrière l'affirmation « je n'y peux rien ». Non, la joie n'est pas le lot de l'humanité. Regardez comme la vie est difficile, la guerre, la souffrance, le chômage, etc. Oui, mais on est d'accord avec tout ça ou on pense qu'on va pouvoir le changer. Tout le monde pense en même temps qu'ils peuvent le changer. Les gens sont étonnants de contradictions. À la fois, ils affirment le déterminisme historique et à la fois, ils disent « votez pour moi, parce que moi, je vais faire ce que les autres ne vont pas faire ». Ah bon, lui est libre, mais pas l'histoire. Qu'est-ce que c'est que cette incohérence ? La vérité, c'est que l'humanité fait son malheur et son bonheur. L'humanité elle-même crée les conditions de sa joie. Mais elle doit le savoir clairement et elle doit clairement mettre en œuvre tous les moyens de parvenir à ce but.
Merci beaucoup Robert Mitraille. On aurait pu continuer à parler pendant de longues minutes, voire de longues heures. Alors sorti le plus récemment parmi tous vos ouvrages, on trouve les actes du colloque qui vous a été consacré à Cerisy-Lassalle en juin dernier. Robert Mitraille pour une éthique de la joie, publié aux éditions Cécile Defaux. Nous en avons parlé aujourd'hui, les actes de la joie, fonder, aimer, rêver, agir, aux éditions Encre Marine, ainsi que votre autobiographie qui a ouvert cette émission, La Nacre et le Rocher, toujours aux éditions Encre Marine, et puis la traduction que vous proposez de l'éthique de Spinoza en folio poche, et enfin votre ouvrage, Une philosophie de la joie sur Spinoza, aux éditions Entrelacs. Vous écoutez France Culture, les chemins du vendredi. C'est l'heure de retrouver Éric Eschimène du Nouvel Observateur. Bonjour Éric.
Bonjour.
À la vie, c'est le titre du livre dont vous nous parlez aujourd'hui ?
Oui, le livre de Léo Lévy, qui est la veuve de Benny Lévy. Alors Benny Lévy, c'est un philosophe de plein droit. Et d'ailleurs, sont publiés en même temps que ce témoignage de sa veuve, sont publiés deux textes, ses cours sur Alcibiade, de Platon, et un livre de Gilanus, qui est le philosophe spécialiste de la pensée de Benny Lévy. Tout ça, c'est aux éditions Verdier. Mais pourquoi j'ai voulu choisir ce livre ? pour vous en parler, c'est parce que Benny Lévy est un personnage qui, dans l'histoire de la pensée politique, de la vie intellectuelle française de ces 40 dernières années, incarne à la fois quelque chose d'extrêmement important, central et extrêmement méconnu. Il a quand même été le chef des Mao, hein, la gauche prolétarienne, la fameuse organisation gauchiste dont sont issus tellement d'intellectuels aujourd'hui. Il a quand même été à l'initiative de la Fondation de Libération. Il a quand même été le secrétaire de Sartre. Il a quand même théorisé la sortie du marxisme. Il a quand même fait le retour vers le judaïsme, l'étude des textes et la défense du judaïsme, de l'identité juive. On peut dire que c'est Cohn-Bendit, Serge Julie, BHL et Finkielkraut en un seul corps. Voilà. Et pourtant, il n'est pas connu. Il n'est pas connu, son histoire n'a pas percé, n'est pas rentrée dans le roman national. Et on va comprendre avec ce livre, qui reprend d'ailleurs des choses, des documents, des déclarations de Benny Lévy, comment cet homme-là qui arrive en France en 60, au tout début des années 60, qui intègre Normale Sup en 65 tout de suite, qui a pour professeur Althusser, qui plus tard va faire le lien entre Sartre et Lévinas, il va d'ailleurs être à l'origine de la seule rencontre entre les deux. Donc il est au cœur de la philosophie de langue française, hein, pour parler comme Jean-Claude Milner. Il s'approprie la langue française, la pensée française. Et on va comprendre comment tout cet effort-là, ce travail titanesque, il était extrêmement doué, il avait beaucoup de facilité, mais enfin quand même, il a énormément travaillé. Et bien c'était pour rattraper, pour combler un vide, pour conquérir quelque chose en lui qui n'était pas du tout une histoire française. Il naît au Caire. À partir de la fin des années 90, début 2000, il ira à Jérusalem. Toute son histoire va être de devenir le juif qu'il était. C'est pas forcément une histoire française, et pourtant elle a traversé la France, et c'est absolument passionnant qu'il y ait eu cette rencontre. Et puis il y a cette fin que moi je trouve universelle, même si lui a beaucoup théorisé la singularité irréductible du juif, du non-juif, comme il dit, cette fin universelle qui est cette phrase qu'il avait dite: seule la pierre de Jérusalem m'apaise. Et bien cette formule-là, cette expérience-là de l'esprit, je trouve que le juif ou non-juif, c'est une expérience philosophique qu'il est intéressant de lire et relire.
Ça, c'est sûr, et d'ailleurs, on n'en parle pas assez de Benny Lévy au Nouveau Chemin. Rappelez-nous le titre du livre.
Alors, ça s'appelle À la vie, donc c'est Léo Lévy, la veuve de Benny Lévy, et c'est aux éditions Verdier.
Merci, Eric. Les Nouveaux Chemins, c'est fini pour aujourd'hui, mais pas d'inquiétude, on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine entière consacrée à Diderot, philosophe, du matérialisme éclectique à la digestion, de l'autorité politique à l'animalité. La semaine prochaine, on vous emmène à Langres, la ville natale de Diderot, à l'occasion du tricentenaire de sa naissance. Et enfin, si de vendredi à lundi, vous ne pouvez vraiment pas vous passer de philosophie, eh bien rendez-vous dimanche à 16h pour Le Gai Savoir de Raphaël Antoven avec Paola Reymann. Raphaël et Paola vous parleront ce dimanche de l'art de vivre de Sénèque. Là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance et rendez-vous également sur la page Facebook où les Nouveaux Chemins mettent en ligne quotidiennement l'émission du jour. France Culture, il est 10h50, tout de suite Martin Kenéen pour Grand Amphi.